L'évangile de Marc. Et nous sommes arrivés, donc on a fait un petit saut en avant, parce que nous sommes dans la période qui nous prépare à Pâques, et on reviendra, on a dit, sur les passages qui n'ont pas été étudiés. Mais donc nous avons sauté sur la dernière, nous sommes arrivés à la dernière semaine de la vie de Jésus, de son ministère sur terre, et nous sommes à Jérusalem, la dernière semaine, et nous arrivons au chapitre 11, donc verset 27, jusqu'au chapitre 12, verset 12. Écoutons la parole de Dieu, soyons attentifs. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui. Lui dire, mais par quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné l'autorité pour le faire? Et Jésus leur répondit, je vous poserai une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, le Baptiste, venait-il du ciel, de Dieu, donc, ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi en eux en disant, si nous répondons du ciel, de Dieu, il dira, mais pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes? Ils craignaient le peuple. Ils avaient peur, car tous tenaient Jean-Baptiste pour un véritable prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Et Jésus leur dit, mais moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Et Jésus ensuite se mit à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir, bâtit une tour, la loua à des vignerons partis en voyage. La saison venue, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir leur part de fruits, des fruits de la vigne. Ils le prirent, le frappèrent, le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur et le frappèrent à la tête, l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent, tuèrent. Seul son fils bien-aimé lui restait. Il l'envoya vers eux-mêmes, le dernier, en disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « C'est lui l'héritier, venez, tuons-le, l'héritage sera à nous. » Ils le prirent, le tuèrent, le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est une merveille à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, ils le quittèrent et s'en allèrent. Seigneur, éclaire pour nous ta sainte parole. Amen. Alors la première phase de cet épisode, un peu spécial, c'est l'entretien de Jésus avec donc toutes sortes de gens, mais qui font partie des religieux, Alors il y a une délégation du Sanhédrin, l'instance religieuse du peuple juif qui est venue vers Jésus et qui lui pose une question. Et donc cette délégation est composée de scribes, Marc insiste là-dessus, de grands prêtres, de grands sacrificateurs et d'anciens. Et donc ils lui posent une question et ils le font en plein jour, en public, ils le font en nombre. Ils doivent se sentir bien, dans le nombre, dans la multitude. Ils doivent se sentir sûrs d'eux-mêmes. Ils sont venus en nombre et le nombre rassure toujours. On se sent toujours plus fort dans une foule. Et aussi leur orgueil leur fait croire qu'ils sont supérieurs de ce point de vue à Jésus. Eux, ils sont en nombre et ils sont face à Jésus. Et ils pensent aussi que leur cause est supérieure à la sienne parce qu'ils sont plus nombreux. Ils espèrent sans doute que leur nombre va aussi impressionner Jésus et va impressionner la foule qui les regarde et qui les écoute. Alors leur question est simple. Par quelle autorité fais-tu cela? On pourrait dire, qu'est-ce que c'est l'autorité? L'autorité, c'est le, le droit légitime dont dispose une personne de régir la vie d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes. Jésus a montré cette autorité en chassant plusieurs personnes du temple et ceux qui marchandaient et qui exerçaient un pouvoir abusif sur leurs contemporains dans ce temple juste avant. Alors, par quelle autorité fais-tu cela ? Eh bien, on pourrait dire par la même autorité que celle qui faisait agir les prophètes de l'Ancien Testament. Les grands prophètes, tous les prophètes ont agi par l'autorité de Dieu depuis Moïse jusqu'à, on va dire, Malachie. Et donc, ils agissaient par l'autorité de Dieu, donc au nom de qui ils parlaient au peuple. La vraie réponse à la question des délégués du Sanhédrin aurait été donc très simple. C'est par l'autorité de Dieu que je fais cela. Jésus aurait pu répondre à ça. Alors pourquoi Jésus ne leur a pas répondu cela ? Bien tout simplement parce qu'ils ne l'auraient pas cru. Ils ne l'auraient pas cru. Et la stratégie de Jésus va dévoiler le fond de leur pensée, va les mettre en face de la profondeur de leur cœur. En fait, ils n'acceptent pas la vérité. Ils n'acceptent la vérité que si elle s'accorde avec leurs opinions, leurs opinions du moment, et si elle sert, ils n'acceptent la vérité que si elle sert leurs intérêts personnels. Voilà ce que Jésus va montrer, va démontrer. Et Jésus va montrer qu'ils sont incapables de reconnaître l'autorité de Dieu lorsqu'ils en sont témoins. Pour cela, il faut d'abord que les religieux répondent aussi à une petite question, une seule petite question, mais une question importante. Et c'est d'ailleurs avec une certaine autorité que Jésus ose poser cette question, et même il le fait avec une certaine insistance, puisque comme je l'ai lu, il demande par deux fois, répondez-moi, répondez-moi. Il veut les sortir de ce système où ils ne sortent pas d'eux-mêmes, ils ne sortent pas de leur position. Et donc, ce qui est bon de signaler à ce propos, c'est que la question de Jésus n'est pas un piège. On pourrait voir, c'est eux qui posent le piège. La réponse de Jésus n'est pas un piège. C'est une occasion, une nouvelle occasion, de prendre conscience pour eux de leur cécité, de leur aveuglement spirituel. C'est une nouvelle occasion de se repentir. C'est une nouvelle occasion de confesser leur aveuglement et de demander à Dieu d'être éclairé. Et donc, c'est une occasion de salut. C'est la main tendue du Seigneur. Et Jésus leur rappelle le ministère de Jean-Baptiste et leur demande si l'autorité de Jean-Baptiste venait du ciel, c'est-à-dire de Dieu, ou des hommes. Et cette question les embarrasse. S'ils avaient su reconnaître l'autorité de Dieu lorsqu'elle s'était exprimée au travers des actions et de l'enseignement de Jean-Baptiste, il y avait des chances, de grandes chances, pour qu'ils puissent aussi la reconnaître au travers des actions et de l'enseignement de Jésus. Mais ils s'avouent eux-mêmes incapables de dire la source de l'autorité de Jean-Baptiste. C'est pourquoi Jésus leur dit en substance, en résumé, « Si vous ne savez pas reconnaître l'autorité de Dieu lorsque vous la voyez en action, alors aucun argument, aussi massif soit-il, ne vous convaincra de sa présence maintenant. Si vous ne pouvez pas dire par quelle autorité Jean-Baptiste a baptisé, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Et donc, nous découvrons au passage que ces chefs spirituels qui sont au-dessus du troupeau, qui règlent la vie, qui se disent au-dessus du troupeau, qui règlent la vie sociale, la vie religieuse du peuple, eh bien, ils sont en fait des hommes qui ont peur, qui ont peur de la foule, et qui feraient presque n'importe quoi pour échapper à cette foule. Et ce n'est pas la première fois. Déjà au chapitre 11, verset 18, les principaux sacrificateurs, les scribes, entendent dire Jésus et cherchèrent le moyen de le faire périr. Ils craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Donc il y a ce climat-là. Et donc ces autorités religieuses se laissent conduire par la peur. Et c'est dangereux des gens qui se laissent conduire par la peur. Ils se laissent conduire par la peur et maintenant par la peur de leur image publique. la peur du « qu'en dira-t-on ? » Ils attendent de la foule une reconnaissance de leur autorité. Voilà qui est un peu amusant hein, dans le contexte, hein. À moins que ce soit vraiment affligeant. Hein. Et donc, la peur, on sait bien, hein, la peur prend les gens aux tripes. Hein. La peur du « qu'en dira-t-on ? » Hein. La peur de l'avenir, la peur de la mort. Hein. Alors, ils confessent ne pas savoir. Les religieux disent « nous ne savons pas ». Alors, les religieux, c'est-à-dire les spécialistes, les savants, disent ne pas savoir. Oh, ben, c'est pas mal, hein. C'est pas mal dans un sens. Hein. C'est pas mal d'avouer qu'on ne sait pas tout, qu'on a des limites, que notre instruction, notre intelligence a des limites. C'est même être intelligent de savoir qu'on a des limites. Hein. Mais ici, c'est pas le cas, c'est pas tout à fait ça, hein. Ce n'est pas l'humilité de leur part. Hein. C'est en fait certainement, car en fait certainement, ils pensent qu'ils savent. Mais la vérité risque d'être encore plus dangereuse pour eux que le fait d'avouer une ignorance. Hein. Et laquelle, pensent-ils, les disqualifierait aux yeux de la foule. Alors ils préfèrent passer pour des imbéciles, pour des ignares en tout cas, que de se remettre en question. Ça va loin. Alors soyons gentils avec eux, imaginons que ces religieux ne savent vraiment pas. Mais dans ce cas, ben, ils pourraient être curieux au moins. Ils pourraient être curieux de celui qui se présente devant eux, de Jésus. Hein. Nicodème, par exemple, en Jean chapitre 3, hein, s'était posé des questions sur l'autorité de Jésus. Hein. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, lui aussi était pharisien, etc. Eh bien, il est allé à la source pour s'informer. Et pour savoir. Alors bien sûr, il est allé de nuit, hein, c'est pas très glorieux. Il est allé en cachette, mais au moins il est allé. Au moins il a eu une démarche de curiosité, une recherche sincère qui va aboutir, hein, qui va aboutir, puisque on le voit, hein, qui avec Joseph, hein, qui vont prendre le corps de Jésus, hein, avec beaucoup de courage, et certainement, hein, il sera dans la suite des premiers croyants, hein, à la Pentecôte. Alors ici, nous avons des gens qui font le contraire, qui ne savent pas, mais qui ont tout intérêt à ne pas trop chercher. C'est pourquoi Jésus leur dit avec colère, « Moi non plus, je ne vous dirai pas. » Alors de cet échange découlent quelques implications pour nous, hein, dans nos rapports avec les autres, avec nos contemporains. Tout d'abord, certaines personnes, aujourd'hui encore, ne peuvent vraiment connaître l'identité, le ministère de Jésus, même lorsqu'elles posent des questions qui semblent pertinentes, hein, parce qu'en réalité, elles ont déjà des préjugés dans leur cœur. Hein, et elles ne cherchent en fait, par leurs arguments, par leurs questions qu'elles nous posent, elles ne cherchent en fait que des arguments pour nous prendre au piège. Hein. Et puis, une réponse sage, ce texte nous rappelle qu'une réponse sage est parfois une réponse indirecte. C'est parfois une réponse qui évite les pièges, qui met en lumière l'hypocrisie, hein, la perversité de l'interlocuteur, ce qui sera peut-être une chance pour lui. Hein. Si les chrétiens doivent être francs, hein, c'est vrai, on doit répondre aux questions qu'on nous pose, les chrétiens ne doivent pas être en revanche naïfs. Hein. Et donc nous voyons là aussi hein, quelque chose qui peut nous aider aujourd'hui encore dans la réponse que fait Jésus. Alors voilà pourquoi Jésus est certainement donc en colère contre ces religieux. Et il va montrer, au travers de la parabole suivante, hein, la parabole donc des vignerons meurtriers, la parabole de la vigne, il va montrer que lui, il sait. Hein, il sait parfaitement ce qu'il y a dans le cœur de ces gens qui prétendent ne pas savoir grand-chose. Hein. Et d'ailleurs, à la fin de la parabole, il est précisé que cette fois, les religieux savent. Ils savent quelque chose. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Alors la parabole. La parabole, c'est l'histoire d'un propriétaire qui confie ses vignes en fermage à des vignerons. Le maître de la vigne a pris la précaution hein, d'entourer la vigne d'une haie hein, pour empêcher l'intrusion des maraudeurs et des animaux sauvages. Alors si on cherche des symboles, on peut dire que cette haie symbolise hein, la loi de Dieu, la loi que Dieu avait donnée à son peuple. Cette loi avait pour but hein, de protéger son peuple de la contamination des nations païennes et de l'idolâtrie des nations païennes. C'est ce qu'on voit dans l'étude du Deutéronome, hein, qu'on étudie semaine après semaine le mardi. Mais il y a aussi une histoire de pressoir, de récipient taillé dans le roc, destiné à la fabrication du vin, et d'une tour qui devait servir à abriter les gardiens, à stocker des outils et le vin. Alors, on ne va pas chercher trop de symboles, mais là quand même, on peut dire que Dieu, là aussi, a tout fait pour son peuple. Non seulement il avait donné la loi, mais il avait donné aussi l'alliance, il avait donné le temple, il avait donné les sacrifices, il avait donné le culte. Et donc on peut dire que Israël avait tout pour se souvenir des grâces de son Dieu, et avait tout ce qu'il fallait pour persévérer ensuite dans la foi, dans l'amour fidèle à l'alliance conclue. Mais malgré ça, donc on voit qu'au bout d'un certain temps, Dieu leur a envoyé des serviteurs pour recueillir le produit de sa vigne. Alors, non pas tout le produit de sa vigne, parce que Dieu est un Dieu généreux, tellement généreux, mais c'était une part du produit. Rien de plus normal, une petite part. Alors c'était les prophètes que l'Éternel, le Seigneur, avait envoyés auprès de son peuple. Et les fruits qu'il voulait recueillir, nous le voyons dans tous les écrits des prophètes. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils voulaient recueillir auprès du peuple la conversion. Convertissez-vous au Seigneur, revenez à lui de tout votre cœur, la foi. Persévérez dans votre attachement au Seigneur, l'obéissance. Répondez à l'amour de Dieu par l'obéissance de toute votre vie, la piété. Restez attachés à Dieu, par l'amour, par la foi, par l'espérance. Alors on peut noter plusieurs choses. Tout d'abord, le propriétaire est patient, étonnamment patient. Il n'organise pas une exposition punitive immédiate après le sort réservé à son premier messager, mais il use d'une patience extraordinaire, phénoménale. Autre remarque, il y a une gradation dans la violence avec laquelle les différents messagers sont reçus. Le mal appelle le mal, un plus grand mal, toujours un plus grand mal. Et pour les auditeurs de la parabole, il est déjà très facile de savoir que Jésus est en train de raconter l'histoire du peuple d'Israël et des prophètes que Dieu a envoyés successivement vers son peuple. Et ces prophètes qui sont souvent morts à l'ouvrage. Et donc, il parle surtout aussi des prophètes qui ont été envoyés vers les responsables du peuple. Car la vigne est naturellement, dans l'histoire d'Israël, l'image d'Israël. Et donc, les messagers successifs de la parabole sont autant de prophètes et d'hommes de Dieu en mission. Les vignerons sont les autorités religieuses qui doivent produire des fruits, la vigne et le peuple de Dieu. Alors voilà que le drame est porté à son comble. Le maître envoie finalement son fils. Et Jésus utilise une expression extraordinaire. Il envoya en dernier celui qui seul lui restait, son seul fils, on pourrait dire littéralement. Et il ajoute son fils bien-aimé. Donc son seul fils, on peut déjà dire que le fils envoyé est le dernier essai. C'est dire qu'il n'y a plus d'envoyé ensuite pour les vignerons. Et par l'expression « fils bien-aimé », eh bien, ça renvoie à l'expression divine que le Seigneur avait employée lors du baptême de Jésus. Vous vous souvenez, « Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et ça sera la même expression, c'est la même expression au moment de la transfiguration. Jésus étant désigné par Dieu comme son fils bien-aimé à nouveau. Donc, les premiers auditeurs de la parabole ont dû se dire « Mais que fait ce maître ?» Il devrait envoyer la police, il devrait envoyer la DGSE, il devrait envoyer les forces spéciales, l'armée, voilà, tout ce qu'on peut dire, la bombe carrément. Mais surtout pas son fils. Il devrait le protéger, son fils, ultra protégé. Mais quand on voit comment les vignerons, donc surtout, traitent les messagers du patron, non, c'est folie d'envoyer son fils à ce moment-là. Et nous pouvons être d'accord avec ça. Qui de nous enverrait son fils à ce moment-là? C'est un vrai, sa fille, je veux dire. C'est invraisemblable, l'attitude de ce propriétaire. C'est insensé, c'est irresponsable. C'est une attitude meurtrière, déjà pour les messagers, mais encore plus pour le fils. Oui, mais c'est une parabole. Une parabole a toujours des traits allégoriques, irréels, exagérés, pour montrer une vérité. Parce qu'elle veut illustrer, cette parabole veut illustrer l'infinie patience de Dieu. Et elle veut illustrer la perversité profonde qui a atteint des limites tellement profondes des chefs du peuple. Pour illustrer ça, les mots n'existent pas. Il faut une parabole qui a des traits irréels. Cette patience est tellement sans limite, cette perversité est tellement profonde que forcément la parabole emploie une exagération. Alors ce que veut montrer Jésus par là, c'est que les vignerons devraient enfin, en voyant le Fils, voir le Père. Ils devraient prendre conscience qu'ils sont allés trop loin, qu'il est temps de se reprendre, de changer, de se convertir, de faire demi-tour. Et c'est cet espoir-là du maître qui pousse celui-ci à ne pas traiter l'affaire comme un maître sévère, un patron digne de ce nom, mais comme un père. Ici, il agit comme un père. Et c'est ainsi qu'il se présente soudain. Il est le Père et c'est le Fils qu'il envoie. Lui-même, un autre lui-même. Mais le regard des vignerons est faussé. Jusqu'ici, ils ne voulaient pas rendre de compte, mais maintenant, ils veulent capter l'héritage. Oh là là, ils avancent encore d'un cran. Et c'est bien parce qu'ils ont vu dans le patron le père à déposséder. Et donc, le fils n'est pas simplement le représentant du père, il est le pardon ultime du patron qui voudrait, qui voulait et pouvait oublier les violences précédentes. Et donc, en tuant le fils, ils tuent le dernier messager, mais aussi ils assassinent le seul pardon possible. Ils tuent le fils et ils se suicident sans le savoir. Alors, les vignerons sont assez fous pour penser qu'en tuant l'héritier, ils vont pouvoir jouir de l'héritage. C'est dire que leur obstination est devenue une démence pure et simple. Ils sont prêts à tout pour confisquer la vigne. Là, nous voyons, je l'ai déjà dit, la profondeur du péché. Le péché qui va toujours plus loin, qui s'enfonce toujours plus, qui est mal, un mal envers soi, envers Dieu, bien sûr, mais qui est aussi une folie sans nom, une démence pure et simple, et sans avenir. L'extravagance et l'outrage vont même jusqu'à jeter le cadavre hors de la vigne. Alors nous pensons à Jésus, bien sûr, qui, trois jours plus tard, sera crucifié en dehors des limites de Jérusalem. Alors que fera le maître de la vigne? Les vignerons ont semé la violence et ils seront frappés avec violence. C'est là la justice. Une justice qui a pris son temps, mais une justice qui n'est pas moins définitive. Et ce n'est pas tout. Qu'en est-il de la vigne? Elle sera donnée à d'autres. Alors nous savons, il n'est pas dit qui sont ces autres. Par contre, il est possible de noter un nouveau statut pour ceux à qui sera confiée la vigne. Il n'est pas dit qu'elle sera louée à d'autres. Aux vignerons, il était dit qu'ils avaient loué la vigne. Mais ces autres inconnus, à ces autres inconnus, il la donne. Elle est donnée. Donc arrivera un temps qui est proche où cette vigne sera donnée par grâce à d'autres. Alors nous pensons bien sûr à une nouvelle ère, l'ère de la grâce, l'ère de l'Église. Mais les auditeurs, donc, la parabole est très pessimiste, puisque la vigne a changé de main, les messagers sont morts, le fils bien-aimé est mort, les vignerons sont morts. Bon. Et les auditeurs de Jésus se sont sans doute demandé où voulait en venir Jésus, qui, il ne faut pas l'oublier, est toujours en train de parler aux religieux surtout, dans sa volonté de leur ouvrir les yeux sur la question de l'autorité. Or, l'autorité du maître de la vigne a été contestée, ses représentants étaient bafoués, son fils bien-aimé n'a pas été reconnu comme le fils digne d'être héritier. Les vignerons ont abusé de leur pouvoir pour prendre le bien d'un autre. Les vignerons ont rejeté l'autorité du maître. Et c'est en parlant de ce sujet que Jésus poursuit son développement, hein, et il évoque un autre rejet dont parle le psaume 118. Donc c'est une citation du psaume 118, 22 à 23, un des psaumes qui était chanté, lu, hein, au moment de Pâques. Donc on est dans la période qui prépare à Pâques, hein. Les psaumes 113 à 118, hein, étaient lus en plusieurs parts, hein, au moment de Pâques. Ces psaumes étaient connus par cœur. Et donc il parle d'une pierre rejetée. Et donc il y a l'image du bâtiment. Une nouvelle illustration. Ce n'est plus une illustration agricole, c'est une illustration liée à l'architecture. Et il questionne les religieux. N'avez-vous pas lu cette parabole de l'Écriture, donc du psaume 118? Alors ça veut dire, vous lisez, bien sûr, ils savent, Jésus sait qu'ils l'ont lu. Ça veut dire, vous lisez, mais vous n'avez pas compris cette parabole, cette parole. Vous devez apprendre non seulement à lire l'Écriture, ce que vous savez très bien faire, mais vous devez apprendre à percevoir l'actualité de l'Écriture pour vous, pour vos vies, ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui à vous. Et ça, c'est une question d'une brûlante actualité aussi. Nous pouvons être des champions de la lecture de la Bible. Quoique dans nos églises, cette lecture de la Bible perd beaucoup. Mais ce n'est pas seulement ça qu'il faut, c'est aussi demander à Dieu humblement, chaque fois que nous ouvrons le Saint-Livre, de pouvoir percevoir son actualité pour moi, pour nous. Alors voilà des bâtisseurs qui rejettent une pierre. La pierre angulaire, c'était celle qui tenait une arche, en équilibre. C'est celle aussi qui pouvait être posée à la base d'un édifice et qui indiquait l'orientation que tout le bâtiment devait prendre. Et donc, quelle drôle d'époque. Les bâtisseurs rejettent la pierre fondamentale, les vignerons rejettent même le maître de la vigne. Et donc on voit que ces deux images vont ensemble et vont bien avec le rejet du Fils de Dieu par les prêtres, les scribes, les anciens. Au centre de cette histoire qui se déroule sur leurs yeux, il y a le Fils bien-aimé qui devient aussi la pierre angulaire d'une construction nouvelle. Il n'y a pas seulement un aspect négatif. Il y a une proclamation de ce que Jésus va faire et qu'il va être bientôt. Alors s'il faut penser aux auditeurs de ce discours, eh bien il faut se rappeler qu'il parle dans le temple. Il y avait tout au long du temple des colonnades où on s'abritait pour parler, pour enseigner. Il est là dans l'enceinte du temple. Et c'est la même journée qu'il dira au chapitre 13, verset 2, qu'il parlera de ce temple en disant, eh bien, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple, il sera renversé. Alors, pour les vignerons, la vigne, tant convoitée, est perdue. Pour Israël, si fier de son statut, le temple sera détruit. Mais la vigne sera donnée à d'autres. Voilà la bonne nouvelle. Et Jésus, fils bien-aimé du Père, rejeté par les hommes, deviendra la pierre angulaire d'une nouvelle construction spirituelle qui durera pour toujours. Rien ne prévaudra contre l'Église que je bâtirai, a dit Jésus. Alors initialement, la question, et c'est là qu'on voit toute l'autorité de Jésus. Initialement, la question était, d'où vient cette autorité? Et par quelle autorité tu fais cela? Et la réponse, elle est donnée à la fin, dans le psaume 118, dans la parole même de Dieu. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est une merveille à nos yeux. Voilà la réponse qui était dans les Écritures, qu'il connaissait, mais qu'il ne voulait pas voir. Alors concluons, il y a plusieurs pistes de conclusion. Certaines personnes ne veulent pas suivre Jésus. Elles posent des questions, mais elles ne veulent pas connaître vraiment la vérité. Elles répondent aux questions qu'on leur pose, mais elles ne disent pas la vérité sur le fond de leur cœur. Elles ne veulent pas laisser Jésus régner dans leur vie. Ça ne les intéresse pas du tout. Suis-je comme ces personnes? Voilà la question à se poser, sincèrement. Une autre chose qu'on peut dire, c'est qui a le droit de diriger ma vie? Qui a le droit de me dire comment vivre? Qui a le droit, qui a l'autorité pour dire ça, pour diriger ma vie et pour me dire comment vivre? Je connais bien la réponse, finalement. Chacun de nous peut dire, je connais la réponse. C'est Jésus qui en a le droit. C'est Jésus qui a l'autorité. C'est Dieu même qui me le dit dans l'Écriture. Mais est-ce que je veux rester au contrôle de ma vie quand même? Est-ce que je suis en train de refuser de faire ce que Jésus me commande dans ma vie de tous les jours? Quelle est ma réponse au Fils de Dieu? Et là, il faut entendre Jésus nous dire ce matin, répondez-moi. Répondez-moi, à deux reprises. Il ne veut pas se satisfaire d'un faux fuyant. Il ne veut pas qu'on regarde l'autre côté quand il pose la question, on regarde le voisin. Il dit à chacun de nous, réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Et c'est une main tendue, une offre de grâce qu'il fait. N'oublions pas que c'est Dieu qui l'envoie. Et c'est très important. Il nous demande de lui rendre le fruit de la vigne. Il nous demande aujourd'hui de tourner le dos au péché, de mettre notre foi en lui. Qu'en faisons-nous? Lui dirons-nous, non, laisse-moi tranquille. Non, j'ai pas le temps. Non, j'ai trop de choses à faire. Non, j'ai peur du qu'en dira-t-on, etc. Ou allons-nous dire non, Fils de Dieu? Voilà ce que ce texte nous dit. Si nous disons, et ce texte enfin nous dit aussi, si nous disons non au Fils de Dieu, il y aura des conséquences. Alors n'oublions pas que ça va plus loin, ce que nous savons de Jésus va plus loin que ce que nous dit cette parabole. Nous savons que Jésus est mort pour nous, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est roi, qu'il reviendra, comme il l'a dit, pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Donc nous ne pouvons pas prendre à la légère la parabole, la parole du Fils de Dieu lui-même. Et donc nous vivons dans un monde où, eh bien, on accepte la vérité que si elle s'accorde à ce qu'on pense ou à nos intérêts. Et en tant que chrétiens, nous pouvons être pris par ce système-là. C'est le péché. Alors comment s'exerce l'autorité de Jésus dans ma vie? Eh bien, elle s'exerce essentiellement par l'autorité par l'Écriture. Qu'est-ce que je fais de l'autorité de Jésus? Ben, qu'est-ce que je fais de l'Écriture? Voilà, pratiquement. Comment se manifeste mon rapport avec l'autorité de Dieu? L'Écriture, la Bible, est souveraine. Il n'y a rien au-dessus. L'Écriture, l'autorité de l'Écriture est exclusive. Il n'y a rien en plus. On ne doit rien y mêler. L'autorité de l'Écriture est extensive, c'est-à-dire elle s'étend à tous les domaines de ma vie, pas seulement ma vie spirituelle, tout. Et donc, qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui reconnaît l'autorité de la parole de Dieu, de la parole du Christ, dans toute sa vie, qui n'y ajoute rien, qui n'en retranche rien, et qui s'y soumet avec une obéissance de tout son cœur. Que chacun de nous aujourd'hui se laisse interpeller par les droits de Jésus sur sa vie et y réponde par l'obéissance de tout son cœur. Amen.